Vous avez entendu l'histoire de...
Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz.
Comment ils vécurent, comment ils sont morts.
Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Eh bien, écoutez Stop Chorus et...
On vous en racontera bien plus.
Eh bien, bonjour à tous. Nous voici dans une nouvelle émission de Stop Chorus.
Eh bien, bonjour. Oui. Fidèle au poste.
Donc aujourd'hui, nous allons vous parler d'un grand pianiste et compositeur de jazz français, une fois n'est pas coutume. Voilà.
Donc... Oui, ils ne sont pas si nombreux, mais il y en a des très, très bons.
Donc aujourd'hui, on va vous parler de Michel Petrucciani. Donc, il est né le 28 décembre 1962 à Orange, dans le Vaucluse, et décédé le 6 janvier 1999 à New York. Alors, Michel Petrucciani est le fils d'Antoine Petrucciani, dit Tony, qui est un Napolitain d'ascendance, guitariste de jazz renommé, qui a été son professeur de musique et a collaboré par la suite à plusieurs de ses albums. Alors, donc Antoine a durant de nombreuses années donné des cours de guitare de jazz dans les écoles municipales de musique et du secteur. Hein, voilà, et il a aussi formé Alexandre Luc, Alexandre Saada, pardon, et enseigné la guitare à Marianne James. Vous savez, on la voyait dans des émissions de télé, voilà. Donc, les deux frères de Michel sont également musiciens. Alors, Louis est contrebassiste et Philippe guitariste. Et d'ailleurs, c'est avec eux qu'il formera donc son premier groupe. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite un interview très court. Enfin, c'est un extrait d'interview de Michel Petrucciani où il parle de son premier piano. Et puis, on va enchaîner ensuite avec la valse du passé où il joue avec Stéphane Grappelli.
Un piano, elle avait acheté un jouet, tu sais. Elle avait acheté le plus beau des jouets qu'il y avait à l'époque, et c'était un jouet, tu vois. Mais ça avait le son d'un jouet. Et moi, j'ai réalisé, là, ce jour-là, j'ai réalisé, quand j'ai eu ce jouet, j'ai dit, bon, de toute façon, ils veulent pas croire que je veux un piano, il faut que je fasse quelque chose pour vraiment leur montrer que je veux un vrai piano, avec un vrai son de piano. Et j'avais demandé à ma mère un marteau, juste quand même l'offre, j'ai dit, t'as pas un marteau, je prends un marteau. Elle m'a dit, pourquoi faire? J'ai dit, donne-moi un marteau. J'ai pris le marteau, j'ai tout cassé. Tout le jouet, tu vois. Et je sais, en plus, je savais qu'elle avait mis tout son argent de côté pour m'acheter ça. Donc, parce qu'on était, on est une famille de pauvres, tu vois. Et je veux dire, bon, c'était dur, tu vois, à l'époque, pour sortir 200 francs. Elle avait payé 200, 300 francs, tu vois, il y a 14 ans, 15 ans, tu vois. C'est beaucoup, quand même, à l'époque. Et c'était dur. J'ai tout cassé. Et après, deux mois après, j'ai eu un vrai. Pourri, mais j'ai eu un vrai. J'étais content, là.
Thank you.
Eh bien, c'est une très belle valse hein, de Stéphane Grappelli. Là, bon, bah, il fait que l'accompagnement, Michel, mais il le fait très bien, très, très finement. Là, ça a dû être une sacrée réunion, quand même. Hein. Le petit vieux, là, qui montre quand même qu'il est quand même là. Puis lui, Michel, ça devait être un très, très grand honneur pour lui de jouer avec... Stéphane Grappelli, quoi. Il est sympa, hein, son interview. Hein. Il était très, très sympa, Michel Petrucciani. Un gars, il avait un peu la grosse tête, mais pas trop. Ça, il était resté humble, malgré tout son succès.
Donc, La valse du passé, qui est une composition donc, de Stéphane Grappelli pour le film Milou en mai. Donc, juste un petit rappel sur Stéphane Grappelli, hein, qui est né en 1908 et décédé en 1997. Donc, violoniste, pianiste et jazzman italo-français, qui fait partie des plus grands violonistes de jazz hein, du XXe siècle et qui créa avec Django Reinhardt le quintet du Hot Club de France. Voilà. Mais on va revenir quelques années plus tôt. Donc, durant les années 60 et 70, la famille Petrucciani vit d'abord dans la région d'Orange, puis à Montélimar, où Antoine Petrucciani tient un magasin de musique. Alors, il faut savoir que Michel Petrucciani est handicapé de naissance du fait d'une ostéogenèse imparfaite, qu'on appelle aussi la maladie des os de verre. Alors, il est atteint de la forme sévère de la maladie et il ne dépassera jamais les 99 cm et sera victime de fractures, même pendant ses concerts. Il ne peut pas être scolarisé et va donc recevoir des cours de professeurs particuliers et va suivre un enseignement par correspondance. Et donc sa formation musicale, c'est son père qui va lui donner et il va même lui fabriquer un rehausseur de pédales pour qu'il puisse atteindre les pédales pour jouer au piano. Et Raymond Jacquemart aussi va lui apprendre, lui donner donc des leçons de piano. Alors, son parcours est quand même assez incroyable, hein, puisque à 3 ans, il chante des classiques du jazz, il joue du piano à 4 ans, et va accompagner le trompettiste américain Clark Terry à l'âge de 13 ans. Donc, c'est quand même un parcours.
Ah, bah oui, parce que Clark Terry, c'est pas un rigolo, hein. C'est un formidable musicien, mais il se fait pas accompagner par des bras cassés. Et là, pour qu'il accepte. Hein, que Michel Petrucciani vienne faire le bof, c'est qu'il avait détecté l'immense talent qu'avait Michel Petrucciani, il n'y a pas de problème. en 3 notes, ça y est, il avait entendu.
Alors, en 1981, il va partir pour les États-Unis et là, il va enregistrer avec le batteur Aldo Romano 5 albums quand même, hein, entre 1981 et 1985. Donc là, on vous propose d'écouter... un morceau intitulé Gatito, donc enregistré en 1981 avec Aldo Romano à la batterie et Jean-François Jenny Clark à la contrebasse.
Eh bien, en 1980, là, il avait 19 ans. Bah, disons, quel toucher encore. Et puis, c'est beau, quoi. Et, bon, bah, avec Aldo Romano, bon, bah, lui, il est bien connu, quoi. Jean-François Kenny Clark, c'est un contrebassiste de l'ombre, mais un garçon plein de talent. Bon, il n'est plus de ce monde, mais c'est, il n'a pas vraiment eu la carrière qu'il aurait mérité, quand même. Il aurait mérité d'être plus connu, quoi. Mais disons, quel grand monsieur.
Voilà, donc Aldo Romano, lui, était quand même connu. Donc, c'était un batteur, hein, et chanteur de jazz aussi, dans une moindre mesure. Hein. Donc, il est né en 1941 et il a émigré très jeune en France avec ses parents. Voilà, il va occuper un rôle important de compositeur en tant que sideman. Et donc, voilà. Alors, maintenant, ce que je vous propose, bah, c'est d'écouter une interview de Michel Petrucciani où il parle de ses débuts. Donc c'est une interview qui a été faite en 1988 en Californie.
On est un musicien, quoi. Je veux dire, mon frère Louis est contrebassiste et puis j'ai un autre frère aussi, frère aîné, qui joue de la guitare aussi avec mon père. Et alors on avait le trio familial, tu vois. Et on a fait un disque parce que mon père voulait faire un disque. Il m'a dit, écoute, ce serait bien qu'on fasse ça quand même. Tout ça. Alors j'ai dit, bon, on va peut-être en faire un autre. Quand j'étais très jeune, en fait, quand j'avais 8, 9 ans, 10 ans, j'écoutais beaucoup Oscar Peterson. Et je copiais les chorus même, tu sais, sur les disques, bon, les magnettes, que tu mets sur 16. Je sais pas, c'était assez vieux maintenant déjà. Et j'ai copié tous les solos, tout ça, et ça m'a beaucoup influencé, et ça m'a beaucoup aidé pour la technique aussi, parce qu'il avait une technique formidable.
Tu crois que tu aurais été moins vite reconnu comme pianiste si les Américains s'étaient pas intéressés à toi?
Nul n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire que c'est sûr que quand je suis parti, que je suis revenu en France, bon, mais les gens m'ont regardé avec d'autres yeux, c'est certain. Ça, c'est inévitable, de toute façon. Parce qu'il y a le côté mystérieux, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, etc. Alors qu'en fait, quand je suis parti comme ça, pour voir des gens, des amis, visiter. Et puis, petit à petit, bon, mais ma vie privée et puis ma carrière musicale a évolué.
Tu dois beaucoup à Charles Lloyd, de ce côté-là.
Je dois beaucoup à Charles Lloyd. C'est lui qui m'a mis sur les scènes américaines.
C'est vrai qu'il a vraiment voulu reformer un groupe à cause de toi?
Je sais pas. Enfin, ce qu'il m'a dit, quand on a joué ensemble chez lui, il m'a dit, écoute, le lendemain, il m'a dit, écoute, si tu veux rester ici, je m'occupe des papiers. Et bon, j'ai plus joué depuis 10 ans, j'aimerais retourner. Tu m'as inspiré. Est-ce que ça t'intéresse? On le fait ensemble. Alors moi, j'étais ravi. Bon, c'est sûr. Mais je sais pas si c'est moi qui l'ai inspiré ou pas. Je pense que c'était le bon timing, comme ils disent. C'est-à-dire que c'était juste au bon moment, quand il fallait, etc.
Thank you.
Eh bien là, l'arrivée aux États-Unis, hein, donc il a 24 ans. C'est merveilleux de jouer comme ça.
Enfin, il est arrivé aux États-Unis à 18 ans, hein, mais cet enregistrement-là date de... il a 23 ans sur celui-là.
Et on peut dire qu'il est pratiquement autodidacte, hein, ce gars-là, Michel Petrucciani. Et là, il a quand même le gratin de ce qui se fait de mieux pour l'accompagner. Cécile McBee à la basse et Jacques de Jonette, un des plus grands batteurs du monde, quoi. C'est bien, c'est merveilleux. Et puis, joue bien. Oh, yeah.
Et donc, Charles Lloyd au sax ténor.
Mais là, il n'a pas joué.
Si, normalement.
Non.
Tu me casses mon cou, là. Voilà.
C'est dans le prochain morceau.
Charles Lloyd est né donc, à Memphis, hein, dans le Tennessee. Alors, c'était un musicien américain. Dans les années 60, il a arrêté de jouer et pour se consacrer aux affaires. Et c'est en rencontrant Michel Petrucciani qu'il décide de se remettre à la musique, quoi. Donc il a joué avec tout un tas de musiciens comme Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams ou encore Cass Jarrett et bien d'autres, quoi. Et bon, alors là, si on ne l'a pas entendu... Je suis désolée.
C'était donc, sur son disque, mais bon, ça arrive, hein, des fois, quand les accompagnateurs sont tellement bons, ils laissent la place un peu.
Ou alors c'est parce qu'ils jouent après, peut-être.
C'est un très beau geste.
Vous pourrez l'écouter ailleurs. Dans la fin des années 80, Michel Petrucciani va quitter la Californie et s'installer à New York, où il va se produire régulièrement au club le Village Vanguard, célèbre club de jazz new-yorkais situé à Greenwich Village, qui a été créé en 1930 par Max Gordon. Et il est le premier artiste non-américain à signer un contrat avec Blue Note, chez qui il restera quand même 7 ans. Alors là, je vous propose d'écouter une composition de Sonny Rollins, Oléo, qui a été enregistrée en live au Village Vanguard en 1984 avec Pell Danielson à la basse et Elliot Sigmund à la batterie. Bon, alors j'espère qu'ils joueront bien là. Thank you.
Eh bien, Léo, ce fameux standard du bebop, hein, d'une simplicité. En général, le bebop, c'est compliqué, mais là, Léo, c'est pas compliqué. Par contre, ça va très, très vite. Et c'est là que les musiciens de bebop disaient, voilà, on va jouer ce morceau, c'est un morceau très simple. Mais on va le jouer à fond la caisse, on va voir si vous, ce que vous avez dans le ventre.
C'est
et là,
on arrive Michel, à suivre.
Voilà, et là, Michel Petrucciani est formidable, quoi. Quelle dextérité et tout, et c'est beau. Et c'est beau, c'est pas que de la dextérité. C'est ça qui est magnifique. C'est que ça touche le cœur. Non, non. Bravo, bravo.
Donc ensuite, dans le courant des années 90, il va se produire en public et va enregistrer de nombreux albums dans divers lieux du monde. Alors son jeu est caractérisé par une remarquable indépendance des mains gauche et droite. Et donc une vitesse d'exécution exceptionnelle, hein, comme on peut l'entendre, voilà, dû à un entraînement intensif, bien sûr, mais peut-être aussi à ses grandes mains, aux os légers, ce qui permet à ses doigts de rebondir très vite sur les touches. Alors, si vous avez l'occasion de voir des vidéos, vous verrez qu'effectivement, c'est un tout petit bonhomme, mais alors, il a des très, très grandes mains. Ça, c'est bizarre, d'ailleurs. Hein, donc, voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter un autre morceau, donc là, qui s'appelle « Les grelots », avec Eddie Lewis. Donc, c'est un morceau de 1994, tiré d'un album qui s'appelle « Conférence de presse », pour lequel, d'ailleurs, il a reçu sa 5e récompense des Victoires du Jazz, parce qu'il avait déjà reçu des récompenses en 88, en 90, en 92, en 94, et donc celle-ci, en 1995. Donc du coup, je vous propose d'écouter Les Grelots. Thank you.
Oui, bah on est, on n'a pas trop de temps, alors bon, bah, vous voyez un petit peu la bande de gars, quoi. C'est pas des rigolos, c'est des géants tous les deux. Eddie Lewis, oh là là. Eddie Lewis, j'ai lu hein, d'un journaliste qui disait quand Quincy Jones avait besoin d'un organiste pour un enregistrement, il appelait Eddie Lewis. Quincy Jones, comme ça, il faisait quand même ses enregistrements à New York. Hein. Il faisait venir un musicien français. Ça donne une idée du niveau d'Eddie Lewis. Moi, j'ai entendu, c'est terrifiant, fabuleux, c'est un monstre. Quand il y va sur son B3, là, on ne sait pas d'où ça vient. Quoi. C'est presque, oui, c'est l'attaque des Martiens. Quoi.
Alors, Eddie Lewis, il est né en 1941, décédé en 2015. Donc, organiste, chanteur, pianiste de jazz, français, donc, d'ascendance martiniquaise, issu d'une famille de musiciens. Alors, il va jouer beaucoup dans les boîtes parisiennes. Il chante aussi avec le groupe musical Les Double Six, avec sa fondatrice Mimi Perrin, Roger Guérin, Ward Swingle et Christiane Legrand, la sœur de Michel Legrand. Alors, ajoutant l'orgue à sa palette instrumentale, Lewis joue dans les années 60 avec Johnny Griffin, Art Taylor, Dizzy Gillespie, Stan Getz. Et à la fin de ces années, il fait aussi partie du trio de Kenny Clark avec René Thomas et enregistre aussi avec Barney Kessel. Il va aussi jouer avec Claude Nougaro, John Birkin, Henri Salvador et bien d'autres. Hein. Et il va former aussi un big band qui s'appelle le Multicolor Feeling, avec lequel il réalise de nombreuses tournées dans toute l'Europe. Il joue également en duo avec Michel Petrucciani, mais aussi Richard Galliano.
Moi, je l'ai vu, la fanfare, la Multicolor Feeling. Alors, justement, j'ai presque le génie d'Eddie Lewis, c'est-à-dire qu'il avait des musiciens, il n'y avait pas que des grosses pointures là-dedans, mais il mettait une émotion. Je les ai vus, dans le même concert, il y avait Claude Bolling, avec les plus grosses pointures qu'on pouvait avoir sur la place de Paris, quoi. Et il n'y avait pas photo, quoi. Ce qui donnait d'émotion, ce qui donnait du cœur, c'était la fanfare. Tellement il savait diriger, quoi. Ah ouais, non. Grand, grand monsieur.
Donc, je vous propose d'écouter maintenant un grand standard du jazz,
je crois que c'était un de ses morceaux de bravoure, hein, Michel Petrucciani.
Et donc, c'est une composition de Juan Tissol. Et là, c'est un enregistrement au Festival de Jazz Baltica en Allemagne. Donc, un festival qui a lieu depuis 1990. Et là, c'est un enregistrement de 1987.
Oui, Juan Tissol était un tromboniste de chez Duke Ellington. On a un peu tendance à donner cette composition à Duke Ellington, mais non, c'était son tromboniste.
Oui, non, mais j'ai bien donné le nom de Juan Tissol.
Thank you.
Donc voilà, c'était une version accélérée là.
Bah là, c'est quelle démonstration. Alors il s'amuse, mais c'est beau. Quoi, c'est là où. Bah, grand, c'est un chef, quoi, c'est un maître, quoi. Parce que, tiens, à ce tempo-là, hein, faire toutes ces petites fioritures et tout, et ça reste cohérent et tout, c'est magnifique, quoi. C'est un grand. Petit par la taille, hein, mais c'est Clark Terry, hein, que t'avais dit. J'ai joué avec un nain, mais c'est un géant de la musique, et c'était vraiment un géant de la musique, quoi.
Donc, alors Michel Petrucciani, il est aussi compositeur. Hein, donc, d'ailleurs, avec une préférence pour les thèmes brésiliens qui sont souvent présents dans ses disques. Donc, je vous propose d'écouter tout de suite un morceau donc qu'il a écrit qui s'appelle Brazilian Like et qui a été enregistré en 1997.
Thank you.
Bien. En sextette, là, c'est. Voilà, il n'a pas trop joué en sextette, et là, c'est magnifique, hein, puis il y a du bon monde, hein. Je vois Steve Gadd, Bobby Brookmeyer, quelques.
Latino.
Oui. Et puis la communauté. Flavio Boltro, Stefano Battista, les copains. Stefano Battista a beaucoup joué en France, hein. Il a résidé en France pendant assez longtemps. Visiblement, c'était un garçon bizarre qui avait des problèmes relationnels. Alors, pareil. Mais c'est un formidable musicien.
Donc, voilà. Donc, alors, il a quand même. Il va être rapidement épuisé, hein, par son rythme de vie, de tournée, parce qu'il est tout le temps parti faire des concerts dans le monde entier. Alors, il va mourir en fait à 36 ans d'une pneumonie à Manhattan, à New York. Hein, bon. Donc, il va être inhumé à Paris, au cimetière du Père Lachaise, à quelques mètres de Manon Solo, ou de Claude Chabrol et Frédéric Chopin. Et en face, Pierre Desproges. Donc, il a quand même.
Oui, il est bien entouré. Il est resté bien entouré.
Il est bien entouré. Alors, je vous propose là d'écouter une petite interview, un extrait aussi d'interview de Michel Petrucciani, où il explique que, quand même, il a eu une vie normale.
Je veux bien vous dire, oui, je souffre drôlement, j'ai beaucoup de problèmes. Je suis petit, je suis handicapé, je bande pas, j'ai pas de femme, j'ai une vie très difficile, la souffrance, la douleur, oh, c'est dur, c'est très dur. Mais non, tout va très bien, j'ai une vie tout à fait normale.
Michel
Donc voilà, c'était Michel Petrucciani qui parlait de...
De sa vie, oui. Il a vécu à 100 à l'heure.
Donc, alors, malgré donc son physique ingrat, eh bien, il avait beaucoup de succès auprès des femmes. Et il a quand même eu 4 compagnes, donc une américaine d'ailleurs, d'origine indienne, Navajo. Et puis, comment il va avoir une femme aussi, Marie-Laure Roperche, avec qui il a eu un fils, Alexandre, qui malheureusement est atteint de la même maladie que son père. Ensuite, il va épouser une pianiste italienne. Et puis, il va également donc être accompagné par Isabelle Mélé, qui lui a tenu la main lors de ses derniers moments à l'hôpital à New York. Donc là maintenant, ce que je vous propose, c'est d'écouter un morceau en duo avec Didier Lockwood, et qui est un enregistrement qui a été fait lors d'une émission qui s'appelle qui s'appelait les Lundis de la Formation, et donc c'est une émission du 13 juillet 1997. Et le morceau s'appelle Beautiful Love. Thank you.
Eh bien, oui, Didier Lockwood, hein, il rend bien aussi hommage à Stéphane Grappelli dans le son et tout ça. C'est... Alors là, les mecs, bah, ils ont le, je sais pas, ils ont un turbo dans le cerveau pour aller aussi vite. Mais alors, voilà. Puis c'est beau, c'est de la musique. Ouais, c'est ça.
Donc on avait commencé avec un duo avec Stéphane Grappelli et donc là c'est Didier Lockwood. Donc d'ailleurs qui s'était fait remarquer par Stéphane Grappelli, hein, et qui lui avait proposé donc du coup de l'accompagner dans ses tournées.
Ah bah
donc
oui,
voilà donc oui. C'était voilà encore.
Comme... Oui c'était très pote, hein, très pote.
Donc, il y a beaucoup de dommages, hein, qui ont été rendus à Michel Petrucciani. Alors, dans le 18e arrondissement, par exemple, il y a une place qui porte son nom. Il y a aussi des salles de concert, bien sûr, dans, à Montpellier, par exemple, à Montélimar, des conservatoires aussi, enfin, des salles des fêtes. Voilà, il y a plein d'endroits qui portent...
Il le mérite.
qui porte son
nom. Pas un manchot.
Donc, on va vous proposer de terminer cette émission avec un morceau brésilien, enfin, c'est ça.
Oui.
Masque et Nada. Masque, oui. Voilà, c'est bien, je prononce bien, ça va.
Voilà.
Donc, un morceau avec Al Jarreau, donc. Qui est aussi auteur, compositeur, interprète américain, hein, et donc est décédé en 2017 à Los Angeles. Et puis, voilà. Donc,
Oui, c'est un bof, ils font la fête, et tant mieux, quoi, c'est très bien.
Voilà, un beau morceau. Puis comme Petrucciani affectionnait particulièrement la musique brésilienne, voilà.
Oui, c'est le latin, le latin jazz.
Voilà, c'est ça. Donc, on va finir avec cette petite note exotique. Voilà.
What's his name? 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 What's his name?
Davis, John Coltrane, Stan Getz.
Comment ils vécurent, comment ils sont morts?
Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Eh bien, écoutez Stop Chorus et
on vous en racontera bien plus.